France Culture.
Les nuits de France Culture.
Samuel Fuller fut un raconteur d'histoire qui vénérait les grands conteurs de la littérature et du cinéma, comme il l'exprimait avec passion dans l'archive qui va suivre, un numéro des Mardis du cinéma de 1993. Samuel Fuller, qui devait mourir 4 ans plus tard, avait alors 80 ans et, interrogé par Claudia Krebs, il refaisait le chemin qu'il avait mené après-guerre à la réalisation, après avoir travaillé depuis l'âge de 12 ans dans les petits métiers de la presse, puis très jeune encore, comme reporter de la rubrique criminelle, avant de devenir le ghostwriter d'écrivain en mal de loisirs et ensuite scénariste à Hollywood. Le tout avant une guerre pendant laquelle, en soldat et reporter, il fut du débarquement en Afrique du Nord, de celui en Sicile et de celui de Omaha Beach le 6 juin 1944, avant de poursuivre la libération de l'Europe au sein de la première division d'infanterie américaine, The Big Red One, en participant notamment à la libération du camp de Falkenau en Tchécoslovaquie, dont témoignent les images qu'il tourna alors en 16 mm. Une libération, aussi évoquée dans son film de 1980, Au-delà de la gloire, The Big Red One, sous son titre original. J'ai tué Jesse James, le port de la drogue, la maison de bambou, le jugement des flèches, 40 Guns, Shock Corridor, White Dog. En seulement une 20aine de films, Samuel Fuller aura marqué la production américaine de l'après-guerre et aussi, en France notamment, toute une génération de cinéphiles représentés dans l'émission que nous allons entendre par les réalisateurs et critiques Bertrand Tavernier et Luc Moulet. Ils vont nous dire la singularité, le style et la force du cinéma de Samuel Fuller, un cinéaste hanté par toute la violence et la haine dont il savait les hommes capables. Mardi du cinéma, Samuel Fuller, diffusé le 26 janvier 1993 sur France Culture.
Les Mardis du cinéma, Samuel Fuller, par Claudia Krebs.
Fuller, moi je l'ai rencontré aux États-Unis, à Los Angeles. J'étais venu le voir parce que j'avais envie de voir The Steel Helmet, J'ai vécu l'enfer de Corée. Alors je l'ai appelé. Il m'a fixé un rendez-vous, il m'a projeté le film en 16 mm. Il m'avait dit, je peux vous donner que 2 heures parce que j'ai du travail. En fait, entre la projection qu'il arrêtait pour me commenter le film, commenter les images, me raconter des histoires, après ça, finalement, je crois que je suis arrivé à 2 heures de l'après-midi et je suis sorti à 1h30 du matin. Alors que je devais passer 2 heures avec lui. Et ça a été mon premier contact, et ça a été formidable. Et j'avais appelé mon fils, Nils Samuel, en son honneur. Et il avait donné, je me rappelle, à ma femme à l'époque, à Colo, un énorme dictionnaire anglais, le Haraps, avec la dédicace suivante, « Learn and regret », donc « Apprends et regrette ». Et regrette. Oui. Et c'est ce qui est une phrase très fullerienne.
Oui.
Voilà.
Vous avez l'air seul.
What did he say?
You're alone. C'est un Américain, il parle pas français.
Oui, il s'appelle. Qu'est-ce qu'il fait?
Who are you? What you doing?
I'm an American film director. My name is Samuel Fuller. I'm here to make a picture in Paris called Flowers of Evil.
C'est Monsieur Samuel Fuller. C'est un Américain, c'est un producteur de cinéma. Il est là pour faire les fleurs du mal.
Fuller, c'est bien.
The story is the boss, not the director.
Not
the lighting, not the clothes, not the buildings, not the age. Nothing. The character. And the greatest movie in the world. Oh, when anybody, Voltaire is your example. It is every character he has.
Ce qui prime, c'est l'histoire, le récit. Ce n'est pas le réalisateur, pas la lumière, pas les costumes ni le lieu, pas l'époque, rien de tout cela, mais le personnage. Avec ce que Voltaire a écrit, on aurait les plus grands films du monde. Tout ce qu'il écrit, chaque personnage qu'il crée est un caractère fort.
J'ai toujours voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
He said he wants to know exactly what his movie is.
Oh. Well, a film is like a battleground.
C'est comme une bataille, un film.
Yes. Love.
L'amour.
Hate.
La haine.
Action.
L'action.
Violence.
La violence.
Death.
Et la mort.
In one word, emotions.
En un seul mot, c'est l'émotion.
Oh.
Break you had being born in prison and mother dying there.
Well, I'm gonna wait for him in the alley. We got a New Year's Day, 12 o'clock.
Wait a minute, Polly. I've got something for you. I've been trying to get it to you all week. I don't trust these characters around here. So I had to stash it in a real safe place.
I wanted to know if you, in your production, you are a journalist,
vous êtes journaliste, scénariste, écrivain, cinéaste. Laquelle de ces activités est la plus importante pour vous?
Elles sont toutes très intéressantes. Tout cela, c'est la même famille. Il n'y a pas de différence. Je peux écrire une scène dans un livre, dans un scénario. Cela, ce sera plus descriptif, vous comprenez? Ce sont les différents aspects d'un même jeu. Là, c'est une partie de foot. Là, c'est une partie de baseball. Mais l'important, quand on raconte une histoire, c'est le début, le milieu et la fin. Prenez, par exemple, un des plus grands livres jamais écrits. Un best-seller dans le monde entier. Pour certains, c'est de la fiction. Pour d'autres, c'est vrai. C'est la Bible. Il y a un début, un milieu, et il était malin, il n'a pas donné la fin. C'est de la fiction pure à son plus haut niveau, et cela a fasciné le monde pendant des siècles. Ça, c'est de l'écriture.
Monsieur Samuel Fuller, I am très ému d'interviewer le plus grand metteur en scène du monde. Et j'ai oublié mes questions.
Ah, Bridget, moi aussi, je suis, je crois, vous êtes très, très belle, très charmante, très, très émue pour moi de répondre à vous.
Le cinéma est la seule manifestation artistique de l'Amérique qui avant était inculte. L'usinamite, ce n'est pas le cinéma, mais la littérature américaine.
That was Vic Farrar. Forget it if you want to live.
Ça, c'est l'écriture. C'est l'histoire qui est bonne. Balzac, dans sa comédie,
retourner les situations d'un seul coup comme ça. Il peut être plus méchant avec l'esprit, avec l'humour, que d'autres avec leurs poings. Il est un très bon exemple de ce que je veux dire. S'il était encore vivant, lui ou Molière ou Shakespeare, c'est eux qui posséderaient Hollywood et qui feraient tous les films. Ce sont les conteurs, des conteurs d'histoires en images.
Mais la littérature américaine.
Et par son côté commercial, Hollywood ne semble-t-il pas avoir favorisé deux générations de délinquants juvéniles, des gangsters au pique-nique et aux mashed potatoes.
L'auréole romantique de l'échec chez Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald et Tennessee Williams a servi d'excuse à trois générations de délinquants adultes.
Le cinéma américain est médiocre, n'est-ce pas la faute des westerns infantiles?
Au contraire, les films américains médiocres sont des adaptations littéraires. Beckett, d'après Anouilh, Jivago, Le vieil homme et la mer, d'après Hemingway.
Quels sont les trois meilleurs cinéastes américains?
Hitchcock, Orson Welles et Jerry Lewis.
Quels sont les trois pires cinéastes américains?
Hitchcock, Orson Welles et Jerry Lewis. L'ordre exact, c'est 321e Hitchcock, 322e Jerry Lewis, dernier Welles.
Quels sont les trois meilleurs cinéastes américains?
Vincente Minnelli, Harry Revier et Edvard Utwisch. Son dernier film est si prodigieux qu'en projection, je pique 12 pages de notes. Non, 13.
Vous voyez le film dans votre quartier?
Je vais à Londres, à Bruxelles ou à New York quand il y a un nouveau film d'Edvard Utwisch.
Quel est votre plus ardent désir de cinéphile?
Mourir en projection.
Il y a une certaine communauté avec... Le cinéma français de ce qu'on appelle plus ou moins la nouvelle vague, puisque ce sont des cinémas qui sont quand même assez fondés sur le paradoxe. Par exemple, en 1960, à l'époque où toute la France est divisée en deux clans, Godard fait un film, Le Petit Soldat, qui renvoie dos à dos les combattants du FLN et les troupes gaullistes, puisqu'il est montré que les uns et les autres pratiquent la torture. Et on trouve des paradoxes de ce genre chez Fuller, où le comble, effectivement, c'est l'histoire du noir qui rêve qu'il ait fait partie du Ku Klux Klan.
Roll the Bronx, hein?
Hey, go roll your own. The streets are full of them.
Come on, divvy up, Tully.
No dice.
I wanted to know...
L'expérience du journalisme, comment a-t-elle influencé votre écriture et plus tard celle de vos scénarios?
En un mot, je n'ai jamais été vraiment intéressée par la fabrication d'un film. Bien sûr, le cinéma m'a toujours intéressée depuis mon enfance au Massachusetts. Je voyais des films de Tom Mix, de William Hart, les Cowboys. Et puis je suis arrivée à New York à l'âge de 11 ans. Et j'ai essayé de continuer à aller au cinéma. Toutes les semaines, ils projetaient des feuilletons de 10 minutes. Danger, revenez la semaine prochaine pour savoir comment le garçon ou la fille va être sauvé. J'aimais le cinéma. Sans ça, je pense que je n'en aurais jamais fait moi-même. Et puis, j'ai travaillé comme un copyboy dans un journal et puis je suis devenu reporter. C'était mon premier contact. Et un jour, j'ai eu un coup de fil des théâtres Louis à Broadway, New York. Je suis passé les voir comme ils me le demandaient. J'étais alors reporter sur des affaires de meurtre. Quand vous êtes vous faites ce genre de reportage, vous n'utilisez jamais d'adjectifs. Vous rapportez les faits bruts. Ce n'est pas ce que vous ressentez qui est important, c'est le fait. Il ne faut pas jouer au psychiatre, parce que c'est trop horrible. Les gens ont besoin de distanciation. C'est un meurtre. Donc, je suis allé au théâtre et il m'a offert $5,000 pour écrire la fin de mon histoire.
to give an ending.
Pour écrire la fin de ces histoires.
I don't make up endings.
Et je leur ai dit non, je ne fabrique pas les fins d'histoire. C'est une insulte. Car la ville de New York et le département de police et son chef, à la une de 11 journaux, ils ont promis qu'ils donneraient 25 millions de dollars pour qu'ils leur fourniraient un indice pour arrêter ces hommes qui avaient assassiné. Mais il m'a dit non. Je ne pense pas ce que vous pensez être la vraie fin. Ce qu'il nous faut, c'est de la fiction. C'était dans les studios de la MGM. Et moi, j'ai refusé. Mon rédacteur en chef m'a dit, tu es bête. Tu aurais dû prendre les 5000 dollars de toute façon et écrire n'importe quoi. Ma mère m'a dit, comment peux-tu refuser 5000 dollars? Tu ne verras jamais de ta vie 5000 dollars. On ne connaît personne dans cette rue qui ont déjà vu un billet de 5000 dollars, sauf peut-être un voleur ou un casseur. Mais moi, j'étais si passionnément amoureux de l'histoire que je relatais chaque jour. J'étais avec les flics quand on a découvert le cadavre, voyez-vous. C'était mon histoire. Et le journal se vendait à 1 200 000 exemplaires par jour.
C'est par ce travail que vous avez appris les différents types de récits, le récit froid des reportages, et puis ensuite le récit chaud de l'écriture d'un scénario, et cela vous a amené à faire des films.
Oui, le cinéma a un avantage que je n'ai pas compris tout de suite. J'aurais dû le savoir depuis que j'étais petit. Comme 10 millions d'enfants, je regardais Western. Et dans les Westerns, il y a toujours une scène où un homme est blessé. Et l'homme est aidé par le cheval. Il y a un gros plan sur le visage de l'homme et sur le cheval, les yeux du cheval. Et le cheval dit, je vais t'aider. Ça, c'est impossible dans les livres. C'est possible nulle part ailleurs. Le cheval se penche vers l'homme, devient de plus en plus proche. Il s'accroche à la crinière. C'est merveilleux. C'est supérieur. C'est une forme de communication supérieure à toute autre forme d'échange entre les gens. Là, c'est un mort, parce que c'est faux. Ici, dans le film, on simule quelque chose qui a l'air vrai. Alors, moi, j'ai continué à écrire des choses originales, 10 pages, 20 pages. Et les studios continuaient à m'en réclamer. Et puis j'ai rencontré un homme, Feldman, et il m'a dit... tu sais ce que c'est un nègre? Je lui ai dit oui. Il m'a dit, moi je peux te payer pour faire ce genre de travail. Alors il m'a présenté un homme qui s'appelle Preminger et qui était producteur et réalisateur. Il m'a donné pas mal d'argent pour écrire des scénarios que je ne signais pas. Mais moi, c'est l'argent qui m'intéressait. La signature d'un scénario ne m'intéressait pas autant que mon nom au bas d'un article. C'est difficile à expliquer, mais votre nom dans un journal, il est là, imprimé. Et vous regardez les gens qui le lisent dans le métro, dans le bus, dans le tram, et c'est votre histoire qu'ils lisent. C'est merveilleux de les voir. En tout cas, c'est comme ça que j'ai commencé à Hollywood. Puis après, c'était la guerre. J'ai été appelée.
Bertrand Tavernier.
Je me souviens encore que j'avais vu, en allant voir tous ces westerns dans un petit cinéma de quartier, j'avais vu la bande-annonce d'un film dont je ne savais pas à l'époque qu'il était Samuel Fuller, mais de J'ai tué Jesse James, quand je devais avoir 14-15 ans, 16 ans, je me rappelle encore avoir vu la bande-annonce et avoir eu très envie de voir ce film. Fuller, c'est plus tard que je l'ai rencontré, c'est quand j'étais passé à un autre stade de cinéphilie, où là vraiment j'étais intéressé par les metteurs en scène, où j'avais découvert aussi des films d'autres pays, des films français, des films japonais, des films italiens. Mais ça a été d'abord le Jugement des Flèches et La Maison de Bambou. Alors je pense que ça a été vraiment à la sortie du Jugement des Flèches, j'ai eu un choc très 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 fort. Je l'ai vu plusieurs fois de suite quand il est sorti. Et à ce moment-là, j'ai commencé à aller essayer de voir tous les films qui étaient disponibles de lui. Il n'y en avait pas tellement, mais tous les films qui étaient disponibles de lui. Le choc formidable du Jugement des Flèches. Donc ça doit être 57 ou 58, 58 ans. Et notamment la première séquence du film où un capitaine, je crois, de l'armée nordiste, ou un lieutenant, enfin, qui est joué par Ralph Meeker, qui est un acteur qu'on aimait énormément, puisqu'il jouait Mike Hammer dans Kiss Me Deadly, avance à cheval avec un cigare et il est blessé. Et auparavant, la caméra a décrit un champ de bataille après la bataille avec les morts, les restes du carnage, l'incendie qui finit de se consumer et un carton typiquement fullérien où on dit dernier jour de la guerre de sécession. Et à ce moment-là, ce cavalier qui se traîne, qui est épuisé, est abattu. Il y a un coup de feu, il tombe de cheval et on voit que Rod Steiger, qui s'approche de lui, qui est un sudiste donc, et qui arrive près de cet homme qui est à terre maintenant et qui râle doucement et sans que les râles du blessé le dérangent, il va prendre, il le fouille, il trouve dans ses poches un morceau de pain. Et il commence à manger le pain et il a ramassé le cigare qui était tombé et a fumé le cigare. Et à ce moment-là, il y a le titre du film. Et ça, ça faisait un effet quand même terrible. La séquence en elle-même faisait un effet terrible. Et elle est totalement fullérienne. C'est peut-être même, s'il fallait choisir une séquence de Fuller, ce serait celle-là qu'il faudrait choisir. Et là, ça a été un choc, et on a tout de suite, à partir de là, on s'est dit, voilà un metteur en scène totalement passionnant, voilà, ça c'est sûr. Et à la fois très, très américain, et tout à fait quand même à l'écart de l'ensemble du cinéma américain, qui impose d'emblée un ton, une manière de filmer, des idées extrêmement personnelles, qui ne les cachent pas, alors que le grand truc de l'establishment hollywoodien, c'était dissimulons. Il faut pas que la mise en scène se voie, comme disait Wilder. Il faut pas que le propos se voie. Chez Fuller, tout se voit. Tout est étalé de manière ostensible. Tout est en première page. Ça, c'est une de ses marques, de ses traits les plus reconnaissables.
Mister. The name and address of the pickpocket you sold to a girl tonight.
Maybe I forgot.
Here's $100 to remember.
You pant like a dog.
$500.
What's this guy made out of, diamonds?
C'était parti un peu à contrario, puisque la première mention de Fuller qu'on trouverait dans la presse française, c'était à propos du prix qu'il a obtenu à Venise pour Pick Up on South Street en août 1953. Et comme c'était un film de guerre froide, ce prix a été très mal reçu. Et certains critiques français avaient crié au scandale. Fuller a réalisé 5 films anti-rouge et peut dire que c'est le champion du genre, puisqu'aucun autre réalisateur n'en a fait autant dans l'histoire du cinéma américain. Mais je pense que c'était un peu une forme de jeu, parce que l'intelligentsia américaine était assez à gauche, et lui qui est un provocateur, ça l'amusait de provoquer l'intelligentsia américaine, parce que ça l'amusait, et puis en même temps ça lui permettait de traiter quelque chose qu'il connaissait bien, la guerre. Et il se trouve qu'à l'époque où il pouvait tourner, il y avait une guerre qu'il n'avait pas faite, mais dans laquelle il pouvait mettre ses souvenirs de la Deuxième Guerre mondiale. Au demeurant, on voit que la façon dont il évoque le communisme est très abstraite. On peut facilement changer les noms et ça pourrait être une autre guerre, je ne sais pas, ça pourrait être une guerre sainte ou la Deuxième Guerre mondiale ou la Première ou n'importe.
Anyway, I tried. Look, mister, I'm so tired. You'd be doing me a big favor if you'd blow my head off.
C'est vrai que les films de Fuller avaient des notations anticommunistes, c'est vrai, mais que c'était stupide de les condamner pour ça, que ça ne les transformait pas en films fascistes. Pour autant, c'est vrai que dans Le port de la drogue, Pick Up on South Street, qui est par ailleurs un film relativement anarchiste aussi, parce que justement le truc de Fuller, c'était de mêler plusieurs directions, quelquefois contradictoires, qui s'entrechoquaient. Il y a un côté anarchiste et apologie du héros qui ne se soumet pas aux organisations officielles, qui est le personnage que joue Widmark dans Pick Up on South Street, mais à côté de ça, vous avez un personnage qui est quand même héroïque, qui est une espèce d'indicatrice qui meurt héroïquement en disant tout plutôt que d'aider le communisme. Mais l'énorme erreur, c'est qu'à l'époque, un certain nombre de critiques, comme Georges Sadoul, avec lequel j'ai eu beaucoup de bagarres sur Fuller, se servaient de ça pour condamner totalement Fuller, qui avait des points noirs. Sadoul lui mettait un point noir dans le Conseil des 10 des cahiers régulièrement, les critiques l'assassinaient à cause de ça, mais sans voir justement l'extraordinaire complexité par moments de Fuller, dont on peut d'ailleurs se dire maintenant, est-ce que c'était forcément le signe d'un esprit réactionnaire que d'être anticommuniste, quand on voit ce que faisaient aussi les communistes à la même époque. Il y a tout un autre côté chez Fuller, il y avait en même temps l'antiracisme, l'anti-establishment, un anarchisme, une volonté de prendre toutes les façons le spectateur par surprise. Maintenant qu'il est réhabilité, Fuller, et qu'on a cessé de le condamner pour des inepties et pour des sottises, on a aussi commis l'erreur d'occulter complètement ça. Et dans les derniers ouvrages qu'ils sont consacrés, c'est comme si c'était quelqu'un d'extrême gauche, et qu'il n'y avait rien d'anticommuniste. C'est pas vrai. Quand on lit les critiques américaines de l'époque dans les journaux américains, les films étaient perçus comme ayant des notations, des pointes anticommunistes. C'était ça. Je pense que Fuller est quelqu'un d'extrêmement libéral, progressiste et tout ce qu'on veut, et que d'être anticommuniste n'empêche pas d'être progressiste. Il y a ce côté anticommuniste chez lui, enfin anticommuniste, c'est pas anticommunisme en tant que, je pense, en tant que doctrine, c'est contre des personnages de communistes qui se trouvaient être les Coréens du Nord dans un film de guerre, qui était un mec qui abattait un blessé, qui abattait quelqu'un dans le dos, qui voulait abattre un enfant.
Oui, j'ai l'impression que c'est plutôt la direction antitotalitaire, parce qu'il a aussi fait un film sur les nazis et les Allemands.
Oui, et puis même en 50, quand il faisait The Steel Helmet, où les Coréens du Nord sont montrés comme des le seul qu'on voit, c'est quelqu'un d'assez fourbe, un espèce de type qui je vous dis, qui va essayer à un moment de faire une traîtrise sur les Américains. À côté de ça, il y a un personnage de noir qui est extrêmement sympathique et qui est très très rare dans le cinéma américain de l'époque, et pas du tout paternaliste. À côté de ça, vous avez un espèce de sergent qui dit des choses vraiment bien, et notamment cette réplique tout à fait fullerienne où Il a tapé sur le prisonnier coréen et il s'est fait engueuler par le lieutenant qui lui dit qu'on n'a pas le droit de faire ça, que c'est contraire à la Convention de Genève et tout. Et à ce moment-là, le sergent Zack prend le prisonnier et lui dit « si tu meurs, je te tue ». C'est une réplique formidable. Ça, c'est... Bon, vous avez ça dans Fuller, vous avez ce côté, vous avez dans Bayonnette au canon, vous avez une peinture aussi très exacte des soldats, de pourquoi qui n'est pas du tout glorifiante, qui est très réaliste. Pourquoi remplit-on dans l'armée ? Dit parce qu'on n'est pas intelligent, parce qu'on n'a pas d'autre métier, dit à un moment le personnage principal, l'un des héros du film. Alors, il y a tout ce côté-là, plus, je vous dis, une ouverture tout à fait libérale qui faisait que La Maison de Bambou est l'un des rares, je crois, l'un des premiers films américains où on voit un mariage mixte, ce qui n'était pas à l'époque permis. Ça tournait quand même le code de censure. Je crois qu'il y a La Flamme Pourpre de Robert Parrish et La Maison de Bambou.
Aviez-vous envie de faire la guerre, de combattre en Europe ?
Oh, ça, c'est une bonne question.
Poilu.
Je suis devenu un poilu.
I was not thinking so much of boom, boom, boom.
Je n'étais pas tellement au boum 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 que je pensais. Je voulais entrer à l'armée. Parce que c'était la plus grande histoire de l'époque.
He's mastering many countries.
Hitler allait prendre toute l'Europe. Il contrôlait déjà beaucoup de pays.
He thinks we lost our fleet, the whole fleet.
Il allait attaquer la Russie. Il pensait que nous avions perdu toute notre flotte dans le Pacifique à cause de Pearl Harbor. Mais toute la flotte n'était pas dans le Pacifique. Et pour répondre à votre question, je pense que c'était le plus grand événement de notre histoire. Depuis 1066, depuis Guillaume le Conquérant. Bref, sans entrer dans les détails, ils m'ont mis dans l'infanterie. À côté de mon nom sur le papier, j'avais mon matricule 745. C'est ça que je suis. Je suis un 745, un chiffre, c'est tout. Ça, c'est un poilu, un tirailleur d'infanterie.
Qui tu es, toi? Meryl, et toi? Est-ce que l'Emchek s'en est tiré? Est-ce que l'Emchek s'en est tiré? Je l'ai vu tomber, je l'ai vu. Pauvre l'Emchek. L'Emchek. Il est mort. Est-ce que l'Emchek s'en est tiré? C'est lui, l'Emchek.
Dans Les Maraudeurs attaquent, mais aussi dans d'autres de vos films, vous avez une manière bien à vous de filmer la vie des hommes, de ces hommes vivant en groupe.
C'est ça, mais moi, c'est ce que j'ai vu.
Vous
voyez, j'aime bien les films de guerre et les films sur le milieu de la presse. Mais le film de guerre courant n'est pas un film de guerre. C'est un film avec la guerre en arrière-plan seulement. J'ai lu un livre en anglais, mais c'est un livre allemand qui s'appelle La Croix de Fer, écrit par un soldat d'infanterie allemand qui a combattu en Russie. C'est un sacré bouquin, le meilleur livre que j'ai lu sur la guerre. Nous avons vécu tout ça. Par exemple, il y avait un trou dans un mur. Le type commence à ramper. Il est bloqué, il revient. Il dit à son copain,
Skinny, you get in.
Dis donc toi, le maigre, tu y vas. Et ils se disputent. Mais ça nous est arrivé exactement pareil. Et toutes les choses sont les mêmes dans le monde de l'infanterie et en Russie. Ah, c'est un livre formidable.
Commandement à l'Ostock. Commandement à l'Ostock. Stock, répondez. Détruisez cette batterie! Commandement à Stock! Détruisez cette batterie!
Donc j'ai eu la chance d'avoir été mêlé à cette forme de vie et de mort. Et j'ai essayé de faire de mon mieux dans tous mes films.
Minimum of dialogue.
Dans les films de guerre, il y a une règle, c'est d'avoir le minimum de dialogue. Et, par exemple, pendant la guerre, on allait se coucher vers 11h minuit dans une tranchée. Si tu voulais dormir, tu creusais un trou de la forme d'un cercueil. Tu pouvais t'allonger. Et si tu y restais, disons, une heure en attente, tu creusais un trou rond pour toi et pour ton fusil. Et le lendemain, quand tu te levais, tu peux me croire, j'ai jamais entendu personne évoquer Dieu, ni dire « merci mon Dieu » ou quelque chose comme ça. Ce n'était plus possible après quelques mois de combat. C'est trop honnête et trop pur. C'est la pureté du mal et de la violence. C'est si pur qu'il faudrait 2 milliards d'années pour tout comprendre. Il n'y a pas de faux fuyant, c'est net, propre, rapide. Tu n'as pas à y aller, il faut y aller, en avant, en avant, en avant. Et c'est pour ça, c'est la même chose pour l'ennemi, et c'est la folie organisée. Quand tu es fou, tu n'es pas organisé. La guerre, c'est la seule forme de folie organisée. C'est parce qu'ils sont protégés, ils font des discours, ils se font du fric. Ils disent, c'est pour la France, c'est pour l'Amérique, mais tout ça, c'est des mensonges. S'il vous plaît, ne prenez pas mon fils, prenez les autres, mensonge. Mon fils ne va pas bien, ma fille est enceinte, mensonge, rien que des mensonges. C'est un jeu d'enfant d'appuyer sur une gâchette. Il appuyait, tu es mort. Les faux discours, ça ne veut rien dire. En ce moment, c'est pire que jamais, et pour la première fois. Il y a beaucoup de pays en Europe qui ont régressé de 2000 ans, et qui ont même régressé plus loin, à l'état de cannibale. Et ils battaient pour qu'il y ait un tout petit lopin de terre, pour un grain de blé, pour un bijou. Nous n'avons pas progressé. Vraiment pas. Maintenant, nous en avons la preuve.
C'est surtout la façon de montrer la violence ou d'être violent à travers sa façon de s'exprimer qui est intéressante. Il y a des scènes d'une très grande frénésie dans ces films, que ce soit par exemple le Shock Corridor ou Pick Up on South Street ou Naked Kiss. Il y a une certaine brutalité des actions, du montage, qui est très efficace. C'est pas tellement un enchaînement de corps tuméfiés comme on voit fréquemment aujourd'hui. D'abord, la plupart du temps, c'est en noir et blanc, ça peut être moins d'efficacité, mais c'est plus le mouvement qui compte que effectivement le résultat des coups. C'est presque une sorte de ballet de mouvement et de violence. C'est souvent d'ailleurs dans des plans qui durent assez longtemps. Il y a donc un souffle à travers le plan, alors que les films courants actuellement ou dans les années passées fondés sur la violence étaient plutôt des montages de plans de 3 secondes, un coup à un plan, et ce qui fait d'ailleurs qu'on ne risque pas de se faire grand mal. Donc il y a une continuité, puisque Samuel Fuller emploie fréquemment la technique du plan long, qui change complètement les données.
Et de quelle manière la manière de faire des films de Fuller vous a-t-elle influencé vous-même?
Bien, c'est dans cette manière d'aborder des sujets, de ne pas avoir peur d'aborder des sujets, de les prendre à bras-le-corps, de les traiter comme dans Le Jugement des Flèches, où tout d'un coup il amène un conflit historique qui est un sudiste qui ne veut pas accepter la victoire du Nord et qui donc va partir se réfugier chez les Indiens. Il préfère s'allier à notamment un peuple qu'il n'aime pas parce qu'il préfère quand même les Indiens aux nordistes et à la victoire du Nord. Et ce qui donne une situation historique extrêmement complexe et jamais vue dans le cinéma américain. Bon. Alors ça, c'est des choses qui m'excitaient, cette manière de jeter l'histoire à même l'écran. Cette façon aussi de conclure ces films, sans la moindre peur, comme justement Le Jugement des Flèches, où un carton vous dit « il n'y a pas de fin à cette histoire, c'est à vous de la terminer ». D'envoyer le bébé au spectateur et de lui dire « maintenant c'est ton problème, c'est à toi de faire ça ». Ça, j'adorais ça. J'adorais ça. J'adorais aussi, Fuller disait, il y a une phrase que j'ai faite mienne très très souvent, il disait « on fait des films quand on est en colère contre quelque chose ». Et ça, c'est une chose qu'en effet qui m'a influencé. Et puis, j'aimais cette façon de filmer. J'aimais ces mouvements d'appareil à toute blinde, qui vont à toute blinde sur un personnage. Il a une figure de style qui revient très très souvent, qui est d'avoir la caméra avant sur quelqu'un qui avance sur la caméra en même temps. C'est une chose qu'il fait très souvent. Et puis, une manière jubilatoire de faire du cinéma. Il y a des moments où on sent qu'il y a certains plans qui l'ont fait bicher de manière fantastique. Par exemple, Fortigens ou Parkrow, on sent que la conception d'un plan, que le fait de aussi dans Parkrow, qui est un film qu'on avait sorti, d'avoir un type qui tape la tête d'un bonhomme avec lequel il est en train de se bagarrer sur le socle de la statue de Gutenberg, que lui, on le sent que cette idée, qu'il adore ça. Les films de Fuller que j'aime, c'est quand tout d'un coup, au milieu du récit, il y a une de ses idées et tout d'un coup, j'entends son éclat de rire derrière. Je l'entends rire et vous tapez dessus, comme ça, et vous brûlez avec son cigare et tout en même temps. Ça, je vois ça et c'est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. C'est Scorsese qui a une formule assez heureuse qui dit que les films de Fuller, c'est les films qu'on devrait avoir quand les gens font des storyboards, c'est-à-dire que c'est donc les choses sont très simplifiées en dessin et qu'on n'a jamais quand on fait des storyboards. C'est-à-dire, Scorsese dit, tous les gens qui font des storyboards, qui disent qu'ils font des storyboards, sur l'écran, ça ne donne aucun résultat. Tandis que Fuller, qui ne fait pas de storyboard, fait évidemment du cinéma. C'est le chef-d'œuvre du cinéma storyboardé, Fuller. C'est-à-dire qu'il y a un mélange, en effet, ce qui tient à dire, il y a aussi un côté bande dessinée, Dick Tracy, un mélange éditoriaux de la première page des journaux. C'est un mélange de ce qu'on appelle la littérature pulp, d'une espèce d'invention anarchique, un plaisir de filmer, une manière de vouloir tout le temps surprendre le spectateur, de le prendre le spectateur à contre-pied.
Le thème de la violence est présent dans beaucoup de vos films et j'ai l'impression que dans tous vos films, finalement, vous traitez encore un aspect de la violence.
C'est exactement ce que je fais, parce que de la violence, il y en a partout dans le monde et pas seulement dans la guerre. La seule différence, c'est que on a des armes. Les gens te reconnaissent. Toute l'hypocrisie consiste à dire « Si tu me donnes de l'argent, tu seras libre. Si tu as de l'argent, tu iras au ciel. » C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils promettent. Mais ça va plus loin, la question de la violence. Il y a de la violence et de la haine dès que vous ouvrez l'œil le matin. Prenez par exemple un type qui bosse depuis 10 ans. Il est son salaud de patron, mais il doit dire bonjour tous les matins. Il veut une augmentation qu'il n'obtient pas. Il s'engueule avec sa mère, avec son fils, avec son frère, avec sa femme. C'est sans fin. Certains divorcent, d'autres se séparent, d'autres tuent. C'est ce qu'on appelle la violence acceptable. Tout le monde, sauf moi. Mais cette violence, nous la créons pour nous-mêmes. On crée toujours la guerre pour les autres. C'est ça que je veux faire comprendre. Personne de ceux qui créent la guerre y meurt, les salauds dieux de bon sens.
Bon, lieutenant, vous n'allez pas me laisser là? Tu sais qu'on n'a jamais laissé personne, O'Brien. Je vais prévenir la colonne, on va te ramasser au passage. Mulet,
je suis là.
Reste avec lui.
Attendez.
Allez, en route.
J'ai une petite réserve personnelle de cigarettes dans mon paquetage. Tu peux encore fumer, oui?
À l'intérieur d'un cinéma qui est un cinéma de héros, lui a pris très souvent comme héros les traîtres. Et il fait d'un personnage qui, dans le schéma classique du cinéma américain, serait le personnage du méchant, lui en fait son héros. Même, ça va jusqu'au choix du physique de ses personnages principaux, et de ses acteurs qu'il aime, qui sont des acteurs comme Gene Evans, qui sont petits, râblés, plutôt forts, qui n'ont pas du tout le côté svelte des jeunes premiers américains. Une chose, par exemple, qui est très typique de Fuller, c'est que son premier film en tant que metteur en scène, c'est « J'ai tué Jesse James », là où 40 metteurs en scène américains, de Henry King notamment à Nicolas Ray, ont fait l'histoire de Jesse James, lui, il fait l'histoire de l'homme que tout le monde déteste, c'est-à-dire l'homme qui a abattu Jesse James dans le dos, l'histoire de Robert Ford. Et cet individu qui est l'un des individus les plus détestés dans l'histoire du western, il essaye de savoir pourquoi cet homme a-t-il fait cet acte.
I was raised on hate. But they were looking into my record, never into me. And what do you
don't
feel
you
great,
worry, Helga. I won't let anything happen to you. Even if I have to come back here and prove it myself.
Duncan. But no American can help me. You heard what that soldier said. Power lines are verboten.
Sergeant, there's a little story making its rounds. This might help you to clear up some of the smoke. Seems they found Hitler dead with a piece of paper in his fist on which he had written, I was never a Nazi.
That brings me to another film you made, Verboten. This is about another.
Un autre de vos films, Verboten, parle encore de la peur et de la lâcheté des hommes.
Oui, c'est vrai, tout à fait. La raison pour laquelle j'ai fait ce film, c'est que j'en ai eu marre. Des gens qui, après la guerre, disaient du mal des Français.
Ces
foutus couillons de Français qui sont barrés. Ça m'a mis en colère. Moi, j'y étais en France à l'époque et j'avais vu ce qui s'y passait. Les gens qui parlent comme ça, ils n'ont rien vu. Mais nous les avons vus. Les armes au poing sur la plage. Les hommes de Laval, de Pétain.
And these Germans had guns pointed at a man from Évreux.
Et ces Allemands qui menaçaient l'homme de Colville-sur-Mer ou de Saint-Laurent-sur-Mer avec un fusil.
Il y avait un grand arbre sur la colline avec une affiche pour le travail obligatoire.
Ce papier, je l'ai ramené chez moi à Hollywood. Il date du 6 juin 1944. Et il y a tous les noms dessus. Les vrais noms. Si vous ne vous présentez pas, votre famille sera fusillée. Et quand je suis dans un café et que j'entends dire du mal des Français, je ne sais pas combien de prêtres protestants ont été tués par Hitler. Un cardinal a lutté contre lui, comme beaucoup d'autres Allemands. Et personne n'en parle. Beaucoup de gens en France sont morts. Ils se sont vraiment battus. Après la guerre, ça me mettait hors de moi d'entendre des gens accuser une nation tout entière. La seule fois où je me suis vraiment rabaissé, j'y étais obligé par notre général. Quand vous vous battez contre les SS, ceux-ci ne font pas de prisonniers. Il n'y a pas de loi, c'est comme ça. À partir de maintenant, dans notre division, nous ne ferons pas de prisonniers SS. Wehrmacht, oui. Mais SS, non, c'est comme ça. Quand cet ordre est venu, nous étions en Allemagne. C'était le Big Red One qui était notre division, composée de gangsters de Brooklyn, New York. Et ils auraient tué n'importe qui. Ils ne faisaient surtout pas de prisonniers. Donc nous sommes tombés aussi bas que les Allemands. Et l'homme qui a décrété qu'il n'y aura pas de prisonniers s'appelait Himmler. Vous connaissez? Oui, il s'est suicidé. Cette salope de poule mouillée. En deux mots, voilà pourquoi j'ai fait ce film. RKO l'a produit et financé. Et c'était délicat. Ce n'était pas le premier film pro-allemand. Il y en avait déjà eu un à l'Ouest, Rien Nouveau, qui parlait de l'Allemagne et non contre l'Allemagne. C'est un grand succès. Mais dans mon film, je fais la différence entre les nazis et les Allemands. C'est moi qui fais ça.
International Military Tribunal Number 1. The United States of America, the French Republic, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the Union of Soviet Socialist Republic against the defendants Hermann Wilhelm Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop, Julius Streicher, Franz von Papen, Zsolmay Schacht, Karl Dönitz, Erich Raeder, Baldur von Schirach, Fritz Sokol, Alfred Jodl, Martin Bormann, Arthur Sesinquart, Albert Speer, Konstantin von Neurath, and Hans Fritzsche, individually and as members of any of the following groups or organizations to which they respectively belong: the Reich Cabinet, the Leadership Corps of the Nazi Party, the SS, the SD, the Gestapo, the SA, and the General Staff and
High Command. There's a piece of paper I have in America.
Il y a un bout de papier que j'ai aux États-Unis, signé le général Dwight D. Eisenhower, qui dit que quand un membre des jeunesses hitlériennes vous tire dessus, vous devez répliquer immédiatement. Un des garçons a tiré dans le talon d'un de nos soldats. Et un autre lui a tiré dans le cul. Deux gamins. L'un de 9-10 ans, l'autre 11 ans.
Stock and another guy went around on the rocks, and they jumped these kids.
Nos camarades sont partis en patrouille, ils ont ramené ces gamins à notre sergent.
And my sergeant got on a radio and called the
captain
of the company.
Appelé le sergent de la compagnie par radio.
Richmond told him that the first evidence of Hitler Youth, Hitler Jugend.
Et il lui a dit que les jeunesses hitlériennes venaient de faire leur première apparition.
Undress him. Both naked.
Le capitaine arrive tout de suite dans sa Jeep et dit: déshabillez-les ces deux-là, foutez-les à poil.
They began in German saying I'm a
Ils se mettent à crier en allemand. Je suis un soldat de la Wehrmacht. Je suis un membre du Reich.
Et le
capitaine, il a ramassé une branche d'arbre.
Et
il a mis sur ses genoux. Et il a commencé à le fesser. Le gamin. Il continue à crier, je suis un membre de la Wehrmacht. Il faut me traiter comme prisonnier. Puis le sang est apparu sur ses fesses. Et l'autre gamin le regardait en se débattant. Et le premier a fini par crier, papa, papa. Et le capitaine l'a jeté par terre et lui a dit, amenez-moi l'autre fils de pute.
He says, what are you gonna do?
Et alors, you know, tandis qu'il administrait la fessée au second, le capitaine est arrivé, un autre capitaine qui disait, yeah, qu'est-ce que vous foutez là? Vous connaissez les ordres de Dwight D. Eisenhower.
Right now,
il faut les tuer tout de suite.
My captain is the captain of men. This guy's a captain in a bureau, an office.
Et voyez-vous, c'était formidable ce conflit entre les deux capitaines. L'un était un homme de terrain et l'autre un administratif. Nous savions qu'il avait perdu, mais ces enfants, c'était des enfants conditionnés, hypnotisés.
Vous a dit que vous aviez notre chien, Mademoiselle Sawyer. Il s'est sauvé un beau matin de notre camping. Nous vous sommes très reconnaissants de l'avoir recueilli si gentiment. On vous a apporté quelques chocolats.
C'est vous qui l'avez dressé, n'est-ce pas?
Ah oui, je l'ai éduqué quand il était tout bébé.
Votre but était d'en faire un chien blanc.
Et le meilleur de sa race.
Une ordure, voilà ce que vous êtes.
En voilà des façons.
Vous n'êtes qu'un pauvre malade. Vous avez deux belles petites filles et vous allez leur communiquer votre maladie. Savez-vous ce que votre grand-père a fait de ce chien? Un dangereux détraqué, un monstre, un assassin. Ne laissez pas faire pareil avec vous. N'écoutez jamais un seul mot de ce qu'il vous racontera. Jamais.
Dites idiote. Voulez-vous vous taire?
Ne me touchez pas.
Assez.
Vous n'êtes qu'un pauvre débile.
Écoutez-moi bien. Si vous refusez de nous rendre notre chien, j'appelle sur le champ la police.
Allez trouver la police. Tout de suite, si vous voulez. Je suis ravie que vous alliez leur raconter votre petite histoire. J'aurai la joie de vous traîner en justice et d'exposer aux yeux du monde les délires de votre esprit dérangé. Votre chien est guéri. Guéri, vous entendez, définitivement. Et c'est un noir, un de vos ennemis qui a fait ce miracle.
You take the same subject about racism in another film, White Dog.
Vous traitez le problème du racisme et de la haine dans un de vos autres films, White Dog, Dressé pour tuer, sauf que là, le héros, si je puis dire ainsi, est un chien.
Oui, mais bien sûr, je ne parle que ça.
It's just a way to tell people.
Mais
that the parents,
ce qui m'intéressait vraiment, c'était cette autre façon de dire aux gens que les adultes ne doivent pas inculquer le racisme aux enfants. Nulle part dans le monde. On y arrivera un jour. Le moment n'est peut-être pas encore venu. Alors, que l'Europe explose. Quand vous prenez un animal et que vous dérangez son cerveau, il sera très difficile de le modifier après. Ce sera presque impossible. Même chose avec un être humain. Là aussi, c'est impossible. Cela se voit lors des expériences. Ce que je voudrais montrer dans ce film, c'est un noir qui essaye de reconditionner un chien raciste, qui essaye, même si ça doit prendre toute sa vie, parce que si on arrive à modifier la mentalité d'un seul chien raciste, cela va insécuriser tous les racistes. En tout cas, c'était très osé. Ici en France, Le Monde a publié un article en première page qui disait que le film était un chef-d'œuvre. Et le Times à Londres le jugeait magnifique et m'appelait un grand écrivain. Et le Guardian à Londres disait Paramount est lâche. En fait, ils n'employaient pas le mot, vraiment le mot habituel pour lâche. Ils disaient craven, qui est un terme très ancien utilisé par Chaucer dans les contes de Canterbury et qui n'est plus usité. Mais cela veut dire vraiment lâche.
Ce film vous a causé beaucoup d'ennuis aux États-Unis.
Et comment?
Are you kidding?
Thank you. a tué un homme. Dans une église.
Je prends un cliché et ce cliché, je vous le détruis sous vos yeux. Bon, vous avez une des images types du western. Un bonhomme prend une femme devant lui pour s'en servir comme bouclier, devant le héros, et dit « Voilà, bon maintenant tu n'oseras pas tirer. » Et le héros tire, et dans la femme, pour abattre le type. Mmh. Voilà.
Oui, oui.
D'ailleurs, ça a été la force de Fuller. Et ce qui explique qu'à partir d'un moment, peut-être sa carrière a piétiné, c'est qu'il travaillait à l'intérieur de genres qui étaient très codés, qui étaient très précis. Et lui, il bousculait les codes et les genres. Mais il avait ces codes et ces genres qui lui servaient, comment dire, de garde-fou, qui lui servaient de nourriture. Quand tout d'un coup, ces codes et ces genres ont explosé ou paru exploser dans les années 60-70, et qu'il y a eu une espèce de désordre, de provocation amenée par des cinéastes comme Altman, Scorsese, Terrence Malick, enfin par plein de cinéastes. Tout d'un coup, Fuller, qui semblait appeler de ses voeux cette espèce de liberté, qui semblait, s'est trouvé comme désemparé. Et les films qu'il a fait comme ça, dans sa fin de carrière, ne sont pas aussi bons, à l'exception de Chien
White
Blanc,
Dog,
qui est très très bon, qui est un film très bon et très sous-estimé aux États-Unis. White Dog est un très bon film. Mais je parle des films ultérieurs, ne sont pas aussi bons, et surtout en France, où en France il s'est trouvé privé de code, il s'est trouvé privé d'image. Je pense que c'est quelqu'un qui filmait contre les choses, pour les gens, pour les émotions, mais contre les codes et contre les clichés. Et forcé de travailler dans un autre pays dont il ne connaissait pas ni les codes, ni les clichés, il s'est tout d'un coup trouvé en porte-à-faux.
J'ai un problème très grave.
Ah, très bien, je vous écoute, allez-y.
Je voudrais que vous le dressiez. En fait, il faudrait, lui, désapprendre une mauvaise habitude qu'on lui a inculquée.
C'est un attaquant. Oui, 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 oui.
Oui.
Un de mes amis a eu un berger allemand pendant 8 ans. Il vivait avec lui, il dormait avec lui, chassait avec lui, pêchait avec lui, je quittais jamais, quoi. Et puis un jour, le chien a sauté à la gorge de mon ami, il lui a déchiqueté.
How did you learn to make movies? Because you have a special way to film.
Comment avez-vous appris à faire des films? Vous avez une manière spéciale de filmer. Comment parvient-on à son style personnel?
Ce que je montre à l'écran, c'est exactement ce que je vois quand je suis à ma machine à écrire. Car ce qui m'excite, c'est ce que je veux raconter. Oh, ce n'est pas le budget, ni les acteurs, ni le lieu de tournage. Non, tout ça n'a vraiment rien à voir avec la fabrication, avec l'écriture d'un film. Mais par contre, je suis tout excité parce que ce que je ressens au moment où j'écris, quand je sais que je vais être le réalisateur. Je ne vais pas noter tous les détails, sauf peut-être quelques indications pour le cadreur ou le décorateur. Par exemple, je veux que chaque porte soit 30 ou 40 cm plus large parce que nous entrerons par ce hall à travers ces couloirs jusqu'à l'ascenseur et nous allons commencer ce plan dans la rue. Ça, je le sais d'avance. Et les studios, ils aiment aussi savoir ça d'avance pour pouvoir préparer. Ainsi, nous n'avons pas besoin de réunion quand le film est écrit. Ce n'est pas difficile d'écrire un film. En tout cas, pas pour moi. Sans me vanter, je connais des tas d'histoires. Et j'en écris une en ce moment. Et si ça marche, C'est retour à Hollywood pour faire le film.
Vous filmez souvent de longues séquences.
Oui, c'est facile quand on a un bon opérateur et une bonne équipe. J'ai toujours eu de la chance avec les deux. Mais le genre de film qui me plaît, c'est quand je ne sais pas d'avance ce qui va se passer. Autrement dit, il y a un nouveau type de réalisateur qui monte maintenant. Il est facile de savoir quel genre de film rapporte de l'argent. C'est toujours pareil. Et il y a des gens à Hollywood qui vont faire beaucoup d'argent avec ce genre de film. Ils font toujours la même chose. Le numéro 2, 3, 4, 5, puisque ça marche. C'est leur affaire. Moi, je n'ai rien à leur dire et ils n'ont rien à me dire non plus. Mais je crois que c'est très sain de faire 100 millions de dollars avec ce genre de film et 100 millions avec le suivant. Tant mieux pour eux. Mais quand vous préparez vous-même ce film et qu'on le refuse alors qu'il y a quatre personnes qui ont déjà quatre versions de la même histoire, ça, c'est la nouvelle sorte de réalisateur. En général, à Hollywood, le studio achète les droits d'un livre, d'un scénario original. Si c'est un livre, ils engagent un ou deux adaptateurs, puis deux ou trois personne pour le scénario, puis un autre pour les dialogues. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Même les indépendants le font. Ils sont 5-6 écrivains, mais le syndicat des scénaristes a changé tout ça. Et on ne peut donner à deux équipes qui ne se connaissent pas la même histoire. À cause du générique. Et tout ça paraît bien idiot quand on pense qu'un seul homme. Quand Shakespeare a écrit toutes ses pièces, un seul homme. Et aujourd'hui, on voit la signature d'un tel, adapté par un tel ou un tel, dialogué par tel. C'est horrible. Ce que je veux dire, c'est ça le nouveau type de réalisateur. Un type comme Hawthorne, il doit travailler à partir du scénario d'un autre, de ce qu'on lui donne. Et ça lui donne une idée pour son film. C'est à partir de là qu'il travaille. Il change certaines choses, mais il ne peut se passer du scénario. Le troisième type, moi, je ne crois aucun réalisateur capable de débarquer sur un plateau sans le scénario pour faire un film. Je n'y crois pas. Je crois que ce sera comme un film d'amateur. On a fait un film récemment qui s'appelle The Player, que j'adore. Et il y a une scène de discussion entre producteurs où ils disent « Nous ne voulons plus d'écrivains, de scénaristes, de réalisateurs, c'est nous qui faisons film maintenant. » Ceci exprime clairement ce qui les dérange et les embarrasse depuis de longues années.
Why are you looking at me like that, huh?
Il y a deux choses. Le fait qu'il ait très peu tourné après 1964, entre 1964 et 1972, il n'a pas pratiquement pas fait de film, sauf un film qu'il a dû quitter en cours de tournage. Et ça correspond à une certaine disparition du film américain dit de série B. Presque tous les films de Fuller étaient exploités comme complément de programme d'un film cher. Et donc la série B, le deuxième film du double programme disparaissait. Il y a toute une production qui aussi est partie en fumée, en quelque sorte. Et d'autres cinéastes en ont été victimes, comme Bud Boetecker, Plus tard, il y a eu Monty Hellman, Anthony Mann qui faisait des séries B a dû passer à la série A et il a fait des films sans grand intérêt parce qu'il y avait plus de pression économique. Douglas Sirk qui faisait aussi plus ou moins des films dans le système, parfois des séries B, parfois des séries A un peu plus chères, a dû aussi s'arrêter de tourner.
Oui, mais on aurait pu s'imaginer que vivant beaucoup en Europe, que Fuller aurait pu trouver de l'argent ici.
Et il faisait partie des cinéastes américains expatriés. Bon, il a réussi à tourner des films qui étaient soit des productions françaises, européennes ou américaines. Et il a quand même réussi à faire plusieurs films. Mais il y a une reprise de production à partir de 1979, puisqu'il y a eu successivement The Big Red One, et puis le film français et White Dog. Et il a pu tourner jusqu'en 1990, je crois, à l'âge de 78 ans, ce qui est déjà pas mal par rapport au système qui rend la vie un peu difficile pour les réalisateurs plus âgés. Il s'est même mieux débrouillé que certains confrères américains qui étaient restés en Amérique et qui avaient plus de problèmes, comme Brooks ou Mankiewicz, dont la carrière s'est arrêtée beaucoup plus tôt. En même temps, il a une activité comme romancier qui n'est pas négligeable. Donc on peut dire qu'il a eu une carrière un peu à l'européenne, c'est-à-dire un film tous les 3 ou 4 ans, après ce trou de presque 10 ans, qui est assez normal par rapport au système européen.
Fuller, à un moment, les films étaient des tout petits films, ce qui étaient des films qui ont été appréciés en Europe, mais qui étaient pratiquement inconnus aux États-Unis. À partir d'un moment, il a eu des succès commerciaux comme The Steel Helmet ou La Maison de Bambou. Mais les derniers films, Shock Corridor, The Naked Kiss, c'était des petites productions, toutes petites. Et la loi américaine est malheureusement impitoyable. C'est-à-dire, vous n'êtes plus bancable, vous ne travaillez plus. Et je pense que Fuller était un peu en marge du système. Hollywood était en train de changer et lui-même ne savait pas s'adapter au nouvel Hollywood, n'y arrivait pas, ne connaissait pas les nouveaux producteurs. Alors, il a été partiellement sauvé parce que c'est même un cas quasi unique d'un metteur en scène à qui son succès cinéphilique a donné une seconde carrière. C'est-à-dire qu'après, on peut dire qu'on en est un peu responsable, j'en suis un peu responsable, et surtout Pierre Rissian, on a sorti Shock Corridor à Paris. Shock Corridor a été un triomphe. Puis après, on en a sorti d'autres, comme Park Row, Forty Guns, etc. Mais le succès de Shock Corridor a contribué à le faire connaître et lui a donné des propositions de travail, aussi bien en Allemagne qu'en France ou en Angleterre, dont il a tiré des films inégaux, dont certains sont bien. Il y a des choses... je me rappelle qu'il y a deux séquences formidables dans Dead Pigeon et Beethovenstrasse. Et puis, il y a White Dog, qui a été fait... produit par un producteur cinéphile. Ça, c'est un peu les conséquences du succès de Shock Corridor et d'un travail où nous, on a une part de responsabilité, même si la vérité historique oblige à dire que, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens en France, ce n'est pas les Français qui, les premiers, ont découvert Fuller. La première personne à écrire sur Fuller un papier très élogieux, ça remonte, c'est très très tôt, c'est Manny Farber, qui déjà louait très fort, dès 48, I Shot Jesse James, et qui mettait dans sa liste de films de 1952, qui devait mettre deuxième dans les 10 meilleurs films de l'année, Fixed Bayonets. Donc c'est Manny Farber, le premier critique qui a trouvé Fuller bien avant les critiques des Cahiers du cinéma, bien avant Truffaut, bien avant Luc Moulet, c'est Manny Farber. Mais après ça, je pense que les premières personnes qui ont réussi à relancer Fuller, là, ça a été, avec les MacMahoniens, ça a été Rissian et moi, quand on a sorti Choc Corridor. Le côté qu'un metteur en scène qui n'a pas de succès commerciaux, mais qui a eu des succès critiques, puisse arriver à continuer à travailler, existe beaucoup plus en Europe qu'aux États-Unis. Y a ça en lui qui fait que Fuller ne peut pas faire un produit calibré. Or maintenant, l'essentiel de Hollywood est d'arriver à faire des produits calibrés.
One forgets too easily that it's a physical work.
On oublie parfois que filmer, c'est aussi un travail physique. Il faut bouger et donner les ordres, déplacer les choses et les gens. Il faut crier. Et parfois, il y a des problèmes à résoudre. Cela vous est arrivé, je crois, lors du tournage de votre film pour la télévision, Le Virginien.
Oui, Charles Monkey Warren me téléphone un jour pour me demander de faire une série pour la télévision, chose que je n'avais encore jamais faite. Il me dit, je veux faire un film de 90 minutes ou 2 heures en couleur. Dans ce cas précis, nous sommes prêts à vous donner autant d'argent possible parce que ce que nous voulons, c'est une vraie histoire. Une histoire qui bouge, comme au cinéma. Je dis, d'accord. Et pourquoi pas l'histoire du premier kidnapping dans l'Ouest ? Oui, dit-il, ça va, l'histoire a lieu pendant le transfert des troupeaux. Et le propriétaire du ranch est un juge, Lee Cobb. Le kidnappeur, c'est Lee Marvin. Il a accepté de faire ce film. Alors, l'accroche. C'est la capture de cet homme. Il attache son prisonnier à un arbre et l'autre dit « Je n'ai jamais vu un fils de pute comme toi. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Tu aimes torturer les gens. Je suis ton prisonnier et tu veux une rançon pour moi. Tu es fou. » Et je voulais montrer comment ces deux hommes se ressemblent de plus en plus. La différence entre le juge et un criminel. C'est tellement un emmerdeur, il vient tel emmerdeur que vraiment. Il sait qu'il va le tuer. Et on comprend que la différence entre les deux, c'est le bois du prétoire qui les sépare dans la salle d'audience. Ça, c'est une grande histoire. Mais maintenant, pour revenir à votre question, je dis à Charles Marcus Warren, que tout le monde appelait Bill, pour moi, la première idée autour de ce kidnapping doit être une scène de panique de troupeau. Il me faut 2000 têtes de bétail. Et Bill me dit, waouh, ça reviendrait trop cher. C'est pas tellement pour les vaches, mais pour les 700 à 800 cascadeurs qui demandent de gros salaires.
You have to pay big salaries to stop them. Big.
1500, 2000 dollars par jour pour les cascadeurs. C'est le salaire d'une petite star.
1500, 2000 a day. These men. I said, well, I'll settle for. Give me 1000. He says,
oh, moi, je suis prêt à accepter 1000 vaches seulement. Alors Bill me dit qu'il fera son possible. Mais j'ajoute que sans ces vaches, je ne peux pas avoir la poussière, l'atmosphère de folie que découvrent tous ces braves cowboys quand ils comprennent que leur patron est parti, qu'il n'est plus là. À ce moment-là, ils ne savent pas encore qu'il a été kidnappé. Bill Bannonnet, 700 à 800 vaches, et ces vaches sont fatiguées, elles ont sommeil, elles n'ont pas assez mangé. Elles avaient lu le mauvais scénario avant de se coucher, elles avaient horreur des martinis qu'on leur servait. Bref, des vaches, quoi.
T'as plus de bande, hein? Non, bon. C'était Les Mardis du cinéma, Samuel Fuller. Avec Samuel Fuller, Luc Moulet et Bertrand Tavernier. Extrait des films de Samuel Fuller, Pick Up on South Street, Verboten, Les Bas-fonds de New York, Quand les maraudeurs attaquent, Shock Corridor, White Dog et Le Jugement des Flèches. Extrait de Pierrot le Fou de Jean-Luc Godard et de Brigitte Brigitte de Luc Moulet. Traduction de Renaud Vatter et de Jenny Gabriel. Doublage Jenny Gabriel. Mixage Agnès Warnier et Rafi Kervorkian. Réalisation Isabelle Huel. Une émission de Claudia Krebs.
Cette émission a été diffusée le 26 janvier 1993 sur France Culture.